franceinter.fr.
Carnet Campagne, bonjour. Comme prévu, nous sommes en Dordogne cette semaine, un des plus grands départements de France, dans une des plus grandes régions, la Nouvelle-Aquitaine. La Dordogne, c'est le Périgord, vert au nord, blanc au centre, noir et pourpre au sud. La Dordogne, c'est Périgueux, c'est Sarlat, la Canéda, c'est Bergerac aussi. C'est un des départements les plus boisés de France qui place l'économie du bois justement en bonne position, cet endroit. Puis viennent la viticulture et le tourisme. Pour ouvrir ce numéro, nous allons à l'antenne périgourdine de Scop Alpha, une coopérative d'activité et d'emploi qui crée des entrepreneurs de nouvelle génération. Et puis, justement, comme on vient de parler de bois, nous donnerons un exemple encore inédit en France de gestion écologique de la forêt par un groupement forestier. À l'aide de placements éthiques d'associés, il achète des forêts qu'il respecte avec la nature et qu'il gère en respect de la nature, évidemment.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Karine Labatte-Papin, bonjour.
Bonjour.
Karine, vous êtes gérante d'une COP Alpha 24, la COP Alpha. C'est une société de coopérative et d'emploi, une CAE comme on dit, née il y a 10 ans à Bordeaux et avec un établissement à Périgueux que vous gérez, ouvert en 2013. Une coopérative d'activité et d'emploi héberge des personnes qui ont désiré créer leur propre travail, leur propre emploi, mais au lieu d'être auto-entrepreneur, avec la fragilité que ça implique, il se retrouve avec une prise en charge administrative et au sein d'un collectif qui fait de l'émulation, crée de la dynamique, de la synergie, propose à chacun de devenir entrepreneur salarié.
Effectivement, c'est pour permettre à toute personne désireuse de créer son emploi, mais de pouvoir se mettre en route. Hein. C'est une approche qui est tout sauf classique sur la création. Elle permet de briser l'isolement et puis de tenter sa chance dans l'entrepreneuriat avec effectivement un hébergement juridique, un accompagnement, de la formation et surtout un collectif d'entrepreneurs. Et un statut qui permet donc à la personne de pouvoir avoir la posture et l'autonomie de l'entrepreneur et toute la couverture sociale du salariat.
Ouais. Comment devient-on gérante d'une coopérative d'activité et d'emploi, comme c'est votre cas depuis peu, depuis le mois de juin ?
Alors bon, il se trouve que je suis de formation ma psychologue du travail. Et j'ai travaillé pendant 10 ans dans une organisation non gouvernementale sur le développement de l'entrepreneuriat dans les pays dits émergents, Congo, Angola, Gabon.
Qui s'appelle AgriSud.
Qui s'appelle AgriSud, exactement. Voilà.
Je sais tout de vous, hein, c'est incroyable. J'ai l'impression d'être en bureau de police.
Et aussi, lorsque j'étais étudiante, j'écoutais en révisant mes livres Carnet de campagne.
Ah, c'est formidable.
Voilà. Voilà, ça a été bon. D'abord un parcours dans une ONG et la rencontre avec Marie-Josée Daubigeon. Et lorsque je suis revenue sur les territoires, Marie-Josée m'a demandé « Est-ce que tu veux faire partie de l'équipe ?» J'ai dit oui. Puis après, je suis rentrée à à COP Alpha, 10 ans. Et puis, c'est une coopérative. Donc, le gérant est élu, s'est développé donc la gouvernance, le partage d'informations et donc j'ai eu envie de présenter ma candidature qui a été bien reçue.
Votre mission, Karine, au sein de cette coopérative, c'est la professionnalisation. On ne devient pas entrepreneur du jour au lendemain. On a beau être animé par un désir d'entreprise, d'entrepreneuriat, ça ne s'invente pas.
C'est ça, ça ne s'invente pas, ça s'apprend. C'est pour cela que l'on propose des ateliers très courts de formation, très pratiques, centrés sur l'activité de l'entrepreneur, pour que, selon son rythme, selon le type d'activité, qu'il soit dans la coiffure, dans l'esthétique, dans l'informatique, dans le bâtiment, qu'il puisse acquérir des compétences en lien avec la gestion, en lien avec la communication, mais aussi qu'il développe des relations avec ses clients et aussi avec d'autres entrepreneurs. Voilà, donc c'est travailler ensemble et développer l'intercoopération.
Ouais. Les deux coopératives, celle de Bordeaux, celle de Périgueux, vont atteindre 300 entrepreneurs. Ça devient vraiment de très très grosses coopératives. On en a parlé à plusieurs reprises de ces coopératives d'activité d'emploi qui présentent beaucoup beaucoup d'avantages, de sécurité, de liberté de travail, de production, d'échange. Pourtant, ça ne décolle pas plus. On se pose la question, pourquoi est-ce que le fait, dites-moi si je me trompe, les entrepreneurs salariés d'une coopérative ont le même numéro de siret?
Oui, est-ce que c'est cette raison-là? Je pense pas. Je pense que c'est plutôt un changement de représentation, c'est très très long, hein. Et il y a très peu de communication effectivement au niveau du grand public.
L'avenir, qu'est-ce qui va décider de l'émancipation, de l'évolution de ces coopératives comme la vôtre?
Qu'est-ce qui va décider? Ben, je pense que c'est tous, hein, on va le décider. Bon, il faut qu'on ait effectivement que les élus, que ce soit au niveau national, au niveau local, soient partie prenante du développement des coopératives. Ça, c'est un élément très important. Et puis, c'est avec les entrepreneurs, l'avenir, hein, qu'on va le construire. Mmh. Ça va faire boule de neige. Plus il y aura d'entrepreneurs, plus de sociétaires aussi. Coop Alpha, là, on va être 33 sociétaires, entrepreneurs qui ont fait le choix de rester au sein de la coopérative en tant que sociétaires et de développer ce modèle-là. Donc je pense que ça nécessite qu'il y ait de plus en plus l'effet de nombre, et puis aussi apprendre à coopérer, à gouverner ensemble, à partager de l'information. Voilà.
Formidable. Le site copalpha.coop, c'est très simple à retenir. Vous allez le retrouver à nos pages d'émission, franceinter.fr, sur notre page Facebook. Merci Karine.
Merci beaucoup.
En Dordogne, toujours jusqu'aux années 90, la filature de Belvès, installée dans un moulin du 19e siècle, produisait un fil destiné aux ateliers des tapisseries d'Aubusson. La communauté de communes fit bon choix d'acheter cette usine pour l'inscrire dans une nouvelle dynamique d'ouverture au public, de découverte d'un patrimoine industriel exceptionnel et d'activités pratiques. Il y a des ateliers, il y a aussi des expositions interactives qui se tiennent là. Et on relance même une production de feutres gérée par l'association Fil du Temps qui révèle et réveille ce type de patrimoine dans le Périgord et le Cantal. La filature est désormais centre d'interprétation de la laine, ce qui signifie que l'on peut initiés au métier de la filature par des démonstrations, des ateliers. C'est un lieu de stage, atelier récup textile, art textile, filage, teinture, outissage, et puis donc un lieu de production de feutres qui inscrit cette filature dans le réseau départemental de la route des métiers d'art. Et samedi prochain, vous le savez peut-être, il y aura samedi et dimanche les journées du patrimoine, et samedi prochain, le moulin sera ouvert gratuitement à tous à l'occasion de ces journées. Et par ailleurs, le lieu vaut le détour également pour son jardin créé à partir de l'ancien bief du moulin. Il permet d'observer la faune et la flore propres aux zones humides. Filaturedebelvès.com, c'est une adresse que vous avez retrouvée à notre page Carnet de Campagne sur le site franceinter.fr et aussi sur notre page Facebook. Pierre Demougeot, bonjour.
Bonjour.
Pierre, vous êtes ingénieur forestier. Vous avez créé avec Suzanne, votre femme, un groupement forestier. C'était en 2013, Avenir Forêt. Avant de détailler, d'un côté, il y a l'agriculture biologique. Avec vous, on va parler de sylviculture écologique.
Tout à fait, ouais, ouais, ouais. Mais c'est quelque chose qui est d'ailleurs tout aussi important, puisque la majorité de la biodiversité française se trouve dans les écosystèmes forestiers. Donc en fait, la manière dont on les traite et dont on les exploite est tout à fait cruciale, quoi, sur le plan écologique.
Ouais, un groupement forestier, il fait quoi? Il fait des coupes et il vend le bois?
Oui, alors effectivement, c'est
résumé, hein, c'est caricatural, mais bon.
Non, mais c'est ça. Et le moment crucial, c'est le moment où on va choisir quels arbres on coupe. Et donc du coup, on va en forêt, effectivement, on va choisir quels arbres on va favoriser et quels autres arbres, du coup, on va enlever pour leur donner un petit peu plus de lumière et voilà, donner de l'avenir à ces arbres qu'on a choisis. Et puis, on va vendre ces troncs d'arbres aux scieries ou à d'autres acheteurs de bois pour faire tout un tas de produits qu'on utilise tous les jours, tous les objets en bois, les charpentes. Oui. Des palettes, du papier, etc.
Oui. Alors, évidemment, il y a une note très critique, hein, quand on parle de gestion du bois. Alors, j'avais un exemple sous les yeux il y a encore quelques temps du côté de chez moi, dans la Bourgogne profonde. C'est en général des coupes qui massacrent le patrimoine naturel. On a des grosses machines qui laissent une énorme empreinte. Parfois, on coupe même plus, on arrache. Donc, on a l'impression qu'il y a eu le passage d'une tornade. Et esthétiquement et écologiquement parlant, c'est absolument raté.
Ouais, voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que la sylviculture industrielle, en fait, essaye de plaquer un modèle agricole, comme vous le disiez, sur la forêt. Donc essayer de faire pousser des arbres comme un champ de maïs. Alors qu'effectivement, le résultat, c'est la destruction pure et simple d'un écosystème.
Mmh. Le fait en France est que les deux tiers du patrimoine forestier appartiennent à des privés. Les privés propriétaires veulent tirer bénéfice de leurs biens. Et en général, donc, on exploite un petit peu n'importe comment.
Oui, et puis on a aussi une méconnaissance de la part du petit propriétaire. Lui, il se fait aborder ou il va voir un acheteur de bois ou un exploitant qui lui dit « Bon, écoutez, de toute façon, vous aurez tant de milliers d'euros si je coupe tout, c'est le plus rentable. » Alors, je mis à part quand même des régions françaises où il y a une vraie culture forestière, notamment dans le quart nord-est de la France, où on voit les choses un peu différemment. Mais hélas, effectivement, c'est un peu le cas dans beaucoup d'endroits.
Ouais. Alors, Pierre, ce que vous avez créé avec Suzanne, donc c'est une première en France, si je ne m'abuse. Avenir Forêt permet un placement éthique et vous achetez donc de l'espace forestier.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, on rassemble de l'argent d'épargnants et puis on se fait une grosse cagnotte. Alors c'est assez convivial, hein. En fait, on fait des assemblées générales tous les ans, etc. Et puis avec cette cagnotte, on va acheter des forêts. Et de manière un peu paradoxale, c'est des gens qui sont issus de plein de milieux différents, etc. Mais qui, sur l'idée qu'ils ont de la forêt ou sur ce qu'ils veulent en faire, se ressemblent beaucoup. Et donc on a une grande cohérence des associés là-dessus, et ce qui nous permet d'avancer de manière rapide et en bonne entente.
Et économiquement parlant, cette formule est viable ?
Alors la forêt c'est un business entre guillemets qui rapporte pas énormément en termes de rendement. On peut se situer aux alentours de 3%. Mais du coup, nous, on garantit 1% minimum.
Ouais. Et puis je vois en juin dernier avec Suzanne, vous avez fait découvrir les écosystèmes forestiers aux écoliers de Sarlat. Donc vous faites de la transmission et de la sensibilisation aussi.
Ouais, tout à fait. Même au sein du groupement, c'est vraiment une idée forte aussi. À chaque assemblée générale, on visite des forêts, on essaye d'expliquer notre métier, de faire passer les bases de ce qu'est un écosystème forestier et de ce qu'on essaye de faire. Les Français en général, on a une vision de la forêt qui est peut-être soit très fantasmée, soit très hostile. Donc il est important à un moment donné de tout simplement de retourner sur le terrain.
Voilà.
D'aller voir un petit peu le sol, les arbres, et de parler de ça en situation.
Puis il y a trois principes donc pour la gestion écologique des forêts que vous appliquez, c'est de pas faire de coupe rase, on en parlait, mais des éclaircies, minimiser les impacts sur le sol avec ces fameuses machines qui sont parfois effectivement des agressions totales pour la biodiversité, et puis favoriser la régénération naturelle. Pourvu que d'autres groupements prennent la même initiative. Alors si vous voulez connaître plus en détail le fonctionnement de ce groupement créé par Pierre et Suzanne, c'est avenirforêt.com, et puis vous aurez aussi le lien avec la page Facebook. Merci Pierre.
Merci beaucoup.
Je passe le message de Bernard. Bonjour Bernard. Bernard dirige Iriscop. Iriscop, c'est la deuxième coopérative d'activité d'emploi de la Dordogne avec Copalpha. Comme il savait qu'on allait parler de Copalpha, il dit, si vous pouvez dire un tout petit mot, on fait régulièrement chaque mois des réunions d'information collective, alternativement en Périgord vert et en Périgord noir. Ce mois-ci, nous écrit-il, la réunion se tient ce lundi. C'est à 14h, c'est à la salle, alors je fais vite, hein, salle intercommunale d'action sociale de Brantôme. Donc à partir de 14h pour rencontrer Iriscop. Le site, c'est iriscop.com. Demain, on reste en Dordogne avec un centre permanent d'initiative CPIE du Périgord Limousin. Et puis, on va rencontrer un chocolatier d'exception inventif, solidaire, éco-responsable. C'est demain dans les carnets de campagne, les prochaines destinations, la Gironde, le Haut-Rhin, le Doubs et le Jura. On rejoint Nicolas Stoufflet en Dordogne à Hautefort le jeudi 1000 euros.